Retrouvez Dear Veil People tous les jeudis à midi 10 et 18h10 sur les ondes de Radio FM+, la radio où la différence nous rassemble. Dear Veil People, bonjour chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode pour continuer à parler de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. La semaine dernière, nous avons eu le plaisir de recevoir Catherine Chaptal et Amélie Roger pour parler de l'accessibilité à l'emploi, de la RQTH, comment gérer ce genre de choses quand on est en situation de handicap. Aujourd'hui, pour continuer ces notions d'accessibilité, on va parler de ce que j'appellerais l'accessibilité financière, les ressources, les possibilités monétaires pour les personnes en situation de handicap. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Emmanuel Loussalo, directeur du SAED, Service d'accompagnement aux aides humaines en emploi direct. Bonjour Manu.
Bonjour Damien.
Comment ça va ?
Très bien.
Qu'est-ce que t'évoques cette thématique, l'accessibilité financière, les ressources, quand on est une personne en situation de handicap ?
25 ans de combat. Voilà, ça fait 25 ans que je suis à l'APF et ça fait 25 ans que cette problématique est présente. Dans le combat des personnes, dans les revendications des associations, donc voilà, on est en 2020 et aujourd'hui, bon nombre de personnes qui ne peuvent travailler vivent sous le seuil de pauvreté, avec les allocations qui leur sont proposées.
Pour expliquer un petit peu à nos auditeurs, qu'est-ce que le SAED ? Quelle est ta fonction aussi, directeur donc, mais au final...
Alors, le SAED en fait est un des services que je dirige, voilà en fait... Mon titre exact, c'est que je suis directeur du pôle conseil sur l'ensemble de la région Occitanie. Et dans ce pôle, il y a notamment ce service mandataire qui s'appelle le SAED. Mais je m'occupe aussi de toute la question du droit des personnes sur l'ensemble des 13 départements. Et je dirige aussi le service emploi, le SACIP, dont tu as reçu Amélie la semaine dernière.
Tout est lié, cher auditoris. Donc au final, est-ce que tu... reçoit des gens, des personnes en situation de handicap, qu'est-ce qu'ils te disent, qu'est-ce que tu ressens, toi, au niveau des problématiques de ressources ?
Alors, les ressources, il y a deux angles. Il y a ce que l'on gagne et ce que l'on dépense. Parce que, en fin de compte, même si tu es salarié, ce qui va faire ta qualité de vie, c'est la différence entre ce que tu vas gagner et ce que tu vas dépenser. Et dans les combats que nous menons, c'est qu'en fait, on estime qu'il y a des surcoûts qui sont liés au handicap et qui ne devraient pas être payés par les personnes handicapées. Voilà. Et donc, c'est tous ces petits bouts qui font qu'à la fin du mois, si déjà ton allocation de base est assez faible et qu'en plus tu as des surcoûts pour te soigner, pour plein de choses comme ça, il ne te reste plus grand-chose pour vivre. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne sont pas dans la vie, elles sont dans la survie. Voilà ce que ça m'évoque.
En sachant que tu parles de ce qu'on gagne et de ce qu'on dépense, en sachant qu'en tant que personne en situation de handicap, ce que l'on gagne, c'est principalement cette fameuse AAH, allocation adulte handicapé. Est-ce que toi, tu y vois des limites ? À cette AAH, quels sont les manques, quels sont les trous, je dirais, entre guillemets, qu'il y a dans cette allocation ?
Alors, la principale limite, c'est son montant. En fait, la AAH, dans les années 70, elle a été pensée comme une allocation qui devait permettre à des personnes qui ne peuvent pas travailler d'avoir de quoi vivre. Donc déjà, on se dit, tiens, là, il y a une allocation et elle ne permet pas de vivre sur... au-dessus ou au niveau du seuil de pauvreté. Ça a été défini, hein, quand on travaille, à le salaire minimum, le SMIC. Donc on a défini qu'il fallait avoir un salaire plancher, sinon, en dessous, c'était très compliqué de vivre de façon quotidienne, de payer son loyer, de faire ses courses, de mettre de l'essence pour aller au boulot. Voilà. Et bien là, si on fait le parallèle avec la AAH, Du coup, on est en dessous de ce SMIC. Donc la logique aurait voulu qu'on dise, si en France on considère que le minimum d'un salaire, c'est tant, quand on ne peut pas travailler, le minimum de l'allocation devrait être équivalent à ce salaire minimum. Voilà. Donc ça, c'est le premier souci, une question de montant. Ensuite, c'est le cas le plus problématique sur lequel on essaie de revenir, c'est le fait que, pour que tu touches ça, on va considérer l'ensemble des ressources du couple. Donc, tu es en situation de handicap, tu as la AAH, tu es célibataire, tu la touches. Voilà. Tu te mets en concubinage, tu te paxes, tu te maries, ton conjoint, il travaille, il a un certain niveau de revenu, on te supprime la AAH. Donc, on voit des situations assez ubuesques, hein, où deux personnes se rencontrent, il y en a une en situation de handicap qui a la AAH, et puis elle rencontre quelqu'un qui travaille et qui a un salaire. Donc, on va dire, on va prendre des chiffres fictifs, hein. Ils ont d'un côté 1000 et 1500 euros pour vivre à deux. Voilà, commencer à construire une vie. Ils ont 2500 euros de disponibles. À partir du moment où ils officialisent le fait qu'ils vont être ensemble, on supprime la AAH. Et ça fait que, au lieu d'avoir 2500 euros, ils n'ont plus que 1500 euros. Les revenus du conjoint qui travaille. C'est complètement ubuesque. Ça veut dire que la personne, qui est souvent une femme, en fin de compte, elle devient dépendante de son mari. Elle n'a plus rien. La seule ressource disponible, c'est le salaire de son mari. C'est quand même complètement incohérent.
Je vous conseille d'ailleurs, cher auditeur, sur ce sujet de voir la vidéo de Nicole Ferroni au micro de France Inter où elle fait un sketch à ce niveau-là et c'est quand même impressionnant de vérité. Et aussi, ça me fait penser qu'actuellement, il y a une loi qui est en train d'être discutée, qui aurait passé l'Assemblée nationale, qui serait aujourd'hui au Sénat, concernant justement l'arrêt de cette prise en compte du foyer pour la AAH. Est-ce que tu as un avis là-dessus?
Oui, alors déjà, c'est pas sympa de faire référence à Nicole Ferroni, qui a été beaucoup plus drôle que moi. Sur le même sujet, je te remercie. Oui, j'ai un avis. Alors, ne soyons pas dupes. Hein. Ce qui s'est passé là en soirée, où des parlementaires ont voté ça, c'est super hein, qu'ils l'aient voté. Hein. Le fait de se dire, on va enlever cette histoire de revenus du foyer, ça passera pas. Hein, c'est un premier tour, ça sera retoqué. Donc, c'est bien qu'ils l'aient fait, mais c'est juste un coup de com'. Globalement, alors là c'est une hypothèse de ma part, c'est pour dire qu'ils ont tellement été merdeux sur les congés quand il y a un enfant qui décède dans la famille qu'ils ont voulu se rattraper, mais ça n'ira pas au bout cette histoire. Voilà, les enjeux financiers, paraît-il, parce qu'on ne nous donne jamais vraiment des chiffres, hein, sont trop importants pour le gouvernement, donc ils le feront pas. Voilà, ça c'est plus qu'un avis, c'est quasi une certitude.
Je te rejoins là-dessus, je ne suis pas très optimiste à ce niveau-là, même si en effet, ça fait bouger les choses et ça peut redonner de l'espoir à certaines personnes. Pour continuer sur cette histoire de ressources, après la AAH, il y a une ressource qui n'est pas assez connue, je pense, la MVA, la majoration vie autonome. Donc c'est une... un plus, un complément de la AAH qu'on reçoit, qu'on perçoit dans des conditions très précises. On doit vivre loin du foyer familial et on doit percevoir la AAH à 100%. Principalement, c'est ça. Donc pour moi, ça veut dire que en tant que personne en situation de handicap, pour avoir un peu plus d'argent, tu es obligé de vivre loin de ta famille. Et je trouve ça un peu bizarre et pas forcément accessible à tous déjà en premier temps. Je dirais même à très peu. J'en fais partie, mais je ne connais pas beaucoup de personnes qui l'ont aussi. Et pour le coup, de ce que je comprends, tu ne la connais pas. Donc, ça veut dire que dans ton travail, tu n'entends pas parler de cette, de ce
Si,
complément.
si. Alors, quand je dis que je connais pas, c'est que je connais pas techniquement précisément. Voilà. Non. Ce qui est singulier, c'est que, alors, c'est pas pour être plus précis, c'est pas vivre éloigné, hein, c'est avoir un logement indépendant. Donc en fait, si tu vis à l'étage du dessus, dans le même immeuble que tes parents, ça fonctionne. Tu as un logement indépendant. Mais c'est quand même singulier de se dire, tiens, on va rajouter quelque chose parce que la première allocation n'est pas suffisante. En creux, c'est reconnaître que l'AAH n'est pas suffisant. Et du coup, on rajoute un petit bout, une majoration pour la vie autonome. Là, on est dans la caricature, et les lois autour du handicap le sont souvent, de ce qui se passe en France au niveau législatif. Voilà, c'est on fait un bout, on refait un autre petit bout, tout ça c'est pas toujours cohérent, ça n'a aucun sens politique. Voilà, c'est un moment où on se dit ah oui, l'AAH est insuffisante, bon, on veut pas y toucher, on veut pas toucher à sa structure, donc on va rajouter une majoration. C'est ubuesque ces systèmes-là. Les personnes en situation de handicap, faut que ça soit des professionnels du droit si elles veulent avoir accès à tout ce dont elles ont potentiellement le droit. C'est d'une complexité folle. Voilà. Ça n'a aucun sens. Au-delà de l'argent, moi j'amène chacun à réfléchir à. C'est pas une histoire d'argent, tout ça. C'est une histoire de choix politique pour la société. En fin de compte, c'est je dirige un pays, quel est mon choix politique? Voilà. Et je pourrais très bien décider, je vais dire un chiffre complètement au hasard, de rajouter 300 millions d'euros par an pour que les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler aient l'équivalent du SMIC. Voilà. Des fois, il y a des choix politiques où, d'un seul coup, une banque tousse, on a injecté 20 milliards dans l'économie. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, c'est pas le propos. Je dis juste, c'est un choix politique, c'est un choix de société. Donc là, tous les gouvernements, pas celui-là, hein, celui d'avant, celui d'avant, celui d'avant, ils font le choix politique de laisser une partie de la population vivre de façon précaire. C'est simple. On ne peut pas le voir autrement. S'ils ne voulaient pas que les gens vivent dans la précarité financière, ils feraient en sorte que le minimum qu'elles ont quand elles ne peuvent pas travailler soit équivalent au SMIC. CQFD.
Au-delà de l'AAH et de la fameuse MVA, je pense qu'il y a aussi un élément à prendre en compte qui est, on va dire, dans le pouvoir financier des personnes en situation de handicap, c'est la fameuse PCH, où là tu es assez proche, je pense, de cette prestation. Comment tu pourrais la résumer simplement, même si je sais que simplement, c'est un peu pas possible, c'est un peu utopique, elle est assez complexe.
Oui, alors voilà, c'est complexe dans sa mise en œuvre, dans plein de choses. Mais on peut résumer, la PCH qui est créée en 2005, en fait, c'est une prestation qui doit permettre à une personne en situation de handicap de voir la compensation des conséquences de son handicap sur plein de sujets. C'est de l'aide humaine, c'est de l'achat de matériel, c'est l'équipement d'une voiture, c'est l'équipement du logement, c'est avoir, par exemple, un chien. Voilà, il n'y a pas que les personnes non-voyantes qui ont des chiens guides, il y a aussi des personnes très lourdement handicapées. Donc dans sa pensée, et au moment où elle arrive, c'est une révolution. Parce que la France, en 2005, on a 30 ans de retard. On est à l'arrache. Au regard d'autres pays européens en proximité. Donc il fallait qu'on se mette à niveau. Donc c'est une super prestation, c'est une super idée. Simplement là, on est à 15 ans et dans sa mise en œuvre, elle régresse. C'est assez hallucinant quand même. C'est-à-dire que si au début, la mise en œuvre a été, je dirais, en cohérence avec l'ambition du texte politique, on voit au fil du temps, notamment sur le côté des aides humaines, où on va te donner une somme pour payer un service qui va te fournir des auxiliaires de vie ou toi embaucher des personnes, En fin de compte, les conseils départementaux, qui sont à la manœuvre, font tout pour donner de moins en moins d'heures d'aide humaine. Donc, dépenser moins. C'est assez incroyable. Leur boulot, quand ils ont été créés, hein, les conseils départementaux, c'est l'action sociale. Donc, ils sont à la manette de la mise en œuvre d'une politique sociale concernant les personnes en situation de handicap, comme ils sont à la manœuvre sur les personnes âgées, sur l'aide sociale à l'enfance. Et là, ils font tout pour en donner le moins possible.
Mais... Non, c'est paradoxal.
Un jour, quand des gens vont regarder ça de très loin et qui probablement ne seront pas français, ils vont dire mais c'est quoi ce pays de barjots, quoi ? Ils pompent des lois parce que la situation est problématique pour améliorer le quotidien des personnes, et ceux qui les mettent en œuvre, qui sont des agents publics, même s'ils travaillent pour un conseil départemental, font tout pour enfiler le moins possible. Eh, vous êtes fous les gars. Voilà. Bon, c'est toujours pareil, hein. Tu sais, le monde c'est gouverné par globalement deux choses, le sexe et l'argent. Donc là, c'est pas une histoire de sexe, c'est une histoire d'argent. Comme c'est les conseils départementaux qui financent une grosse partie de cette PCH, sous prétexte de « ça coûte cher », ils font tout pour réduire cette prestation.
Nous continuerons à parler de ce paradoxe après une pause musicale, cher auditoris. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le titre de Pink Floyd, Money. Je pense qu'il est totalement à propos aujourd'hui. Bonne écoute.
We'll be right back.
Bienvenue, people, chers auditeurs, vous êtes de retour pour parler de l'accessibilité financière des personnes en situation de handicap. Toujours en compagnie de Emmanuel Loussalot, directeur du pôle conseil à l'APF France Handicap. Comment ça va, Manu?
Très bien, depuis tout à l'heure.
Toujours. Je vérifie que mes invités ne soient pas perdus entre-temps. Juste avant la pause, nous parlions de ce fameux paradoxe à propos de la PCH, qui était une invention révolutionnaire à l'époque, mais qui aujourd'hui régresse. Tu as pu parler aussi de surcoût, de dépenses, et notamment, moi je vois la réparation du fauteuil roulant. Fauteuil roulant électrique auquel on n'a droit que tous les 5 ans au prix de la sécurité sociale, faire une demande spécifique et chaque année on a droit à des forfaits annuels qui sont dirigés sur trois types, les réparations électriques, les réparations des pneus, les réparations autres. Et c'est des forfaits qui sont louables aussi d'être présents, mais qui sont trop peu par rapport au prix exorbitant de la réparation d'un fauteuil roulant. Est-ce que justement dans le cas de la PCH, autre l'achat d'un fauteuil roulant, est-ce que dans la réparation, il y a quelque chose de possible?
Alors là, c'est une partie que je ne maîtrise pas parfaitement. Il ne me semble pas avoir vu spécifiquement quelque chose là-dessus. Maintenant, on peut imaginer que de façon exceptionnelle, tu peux demander une PCH à titre exceptionnel, un petit bout. Il y a des choses qui se jouent, mais bon, j'y crois pas trop. Voilà. Mais non, ce que tu dis là illustre parfaitement des surcoûts qui peuvent peser lourd, hein. Voilà, hein, au bout d'un moment, je dois faire réparer mon fauteuil électrique. Je suis bien dans les conséquences du handicap, très clairement. Et là, même si des choses sont pensées, prévues, elles sont pas suffisantes. Donc ça te met à mal. Ça fait partie des paradoxes que l'on voit, alors que la situation, théoriquement, juridiquement, devrait permettre qu'on ait la compensation des conséquences du handicap. On voit des personnes qui ne changent plus de fauteuil. On voit des fauteuils qui se vendent sur eBay. C'est quand même fou. On a pensé le système pour que les gens puissent accéder à juste quelque chose qui est essentiel. Eh bien non, du fait de cette précarité financière, du fait d'avoir peur parfois de s'adresser à la MDPH, de demander quelque chose, on voit des choses comme ça qui se vendent sur des sites internet.
C'est assez fou. Et au milieu de ces paradoxes, au final, est-ce qu'il y aurait des stratégies financières à jouer au milieu de tout ça? Personnellement, j'ai pu faire l'expérience de deux choses qui m'ont permis d'améliorer mes ressources. C'est le service civique et actuellement une formation rémunérée. Par Pôle emploi, est-ce que c'est pas des stratégies possibles, malheureusement, sur un temps court où la rémunération du service civique n'est pas comptée comme salaire, ainsi que la rémunération d'une formation?
En fait, il faut globaliser et là aller sur la meilleure solution pour avoir de l'argent, c'est de travailler. De fait. Mais.
Et il y a un gros mais.
Ah oui, il y a un gros mais. Alors, les politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées, il n'y a pas de souci, hein. Depuis la fin des années 80, il y a des choses qui sont faites. Il y a des centaines de millions d'euros qui ont été mis sur la table, le résultat, il n'est absolument pas là. Hein. Je crois que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est le double des personnes valides. Bah, tout simplement parce que accéder à l'emploi, c'est une chaîne complète. C'est-à-dire que ça commence dès l'école. C'est un peu plus compliqué de trouver du travail si tu as été exclu de l'école. Voilà. Si tu as été placé dans un établissement avec d'autres personnes en situation de handicap et que c'était par intermittence que tu pouvais accéder à l'école. Voilà. Donc l'accès à l'école, c'est le point de départ. Faisons en sorte que les enfants en situation de handicap, quel que soit leur handicap, au moins accèdent à l'école. Après, ils réussiront, ils réussiront pas. Ouais, mais comme les gamins valides, hein. Il y en a qui réussissent pas. En tout cas, ils peuvent y aller. Voilà, donc mettons ça en place. Et puis, c'est la chaîne, c'est le primaire, c'est le collège, c'est le lycée. Moi, je me souviens avoir vécu une situation où la personne, suite à un accident, elle reprend des études, elle se retrouve à la fac, ouais, mais elle ne peut pas accéder aux cours. Elle ne peut pas accéder aux amphis. Elle ne peut pas passer les examens. Comment tu fais ? Et puis, si tu arrives au bout de la chaîne, ben, faut trouver du taf, quoi. Donc, faut que l'entreprise, un, ait envie. Mais bon, on va penser que les gens ne sont pas discriminants, mais il faut juste que l'entreprise soit accessible. Il faut que ton bureau soit accessible. S'il y a certains boulots, si tu prends ta bagnole, il faut que tu ailles faire une visite chez un client ou un partenaire, ou peu importe, il faut que tout soit accessible. Donc, c'est une chaîne complète qu'il faut penser. Donc là, on pourrait dire, demain, on met 30 milliards sur l'emploi des personnes handicapées. De toute façon, la société n'est pas accessible. Donc le problème va rester encore pendant des années. Parce que, j'allais dire, on a un train de retard, ouais, c'est... On a quelques trains de retard.
Et nous revenons, chers auditeurs, à ce que nous disions avec Alain Miro il y a 2 semaines sur l'accessibilité du bâti, la législation... qui explique pourquoi c'est si lent et finalement qui a des impacts partout sur les emplois, sur les ressources. Tu as parlé de chaîne complète, moi je dirais même que ça va jusqu'à la personne elle-même, puisque avoir un emploi, avoir un salaire, ça a un impact direct sur l'AH. Et finalement, ça a pas... ton handicap ne va pas disparaître parce que tu as un emploi. Et donc, finalement, tu as toujours cette notion de surcoût, et je ne pense pas que ton salaire suffise, en sachant que pour la plupart des gens actuellement, ils ont du mal avec leur salaire en étant valide, en étant en situation de handicap, je ne crois pas que ça soit possible.
Alors, ça va pas être fantastique, mais ça sera toujours mieux. Voilà, admettons que dans le plus mauvais des cas, si tu travailles à temps plein, tu es le SMIG, ça sera toujours moins pire que d'avoir la hache. Voilà. Rien n'est parfait, hein, mais bon, voilà, faut dire qu'on traîne une histoire où rien n'a été fait dans la société. Rendre les gens autonomes, bah, c'est pas juste dire, tiens, est-ce qu'on va fermer des établissements ou pas ? C'est penser la société pour accueillir ces personnes. Donc le décalage entre les discours et la mise en œuvre, c'est assez impressionnant. Moi, je pense que Alain Miro a dû te parler de ce qui se passe au niveau de l'accessibilité. Je ne suis pas un spécialiste de cette question, mais c'est selon moi l'échec de la loi de 2005. C'est-à-dire que les ambitions portées, c'est une catastrophe. On a vu les ambitions du texte au fil du temps, alors pour le coup, être mises à mal par de nouveaux textes. Bah, c'est pareil, c'est quels moyens on se donne pour y arriver. Moi, je trouve ça dramatique. Quand je travaillais un peu plus sur ces questions-là, il y a quelques années, j'expliquais aux politiques que je rencontrais que c'était quand même impressionnant dans un pays comme la France, où quand on regarde la pyramide d'âge, on sait que c'est quand même des personnes âgées qui vont structurellement arriver, de plus en plus. Hein. On n'est pas un pays de jeunes, hein. On est un pays de vieux. Voilà. Et que là, ils sont en train de rendre inaccessible la France aussi pour les futures personnes âgées. Voilà. Si elles ne peuvent pas sortir de chez elles, elles vont rester chez elles. Voilà.
Ce qui a été le cas pour beaucoup de personnes en situation de handicap et encore aujourd'hui, il me semble, malheureusement. Nous arrivons à la fin de cet épisode sur les ressources. Et pour finir, j'aimerais parler d'un chiffre que j'ai pu voir dans une vidéo TikTok sur la sexualité des personnes en situation de handicap, qui parlait de 57 millions de personnes en situation de handicap aux États-Unis avec un pouvoir d'achat de 220 milliards de dollars.
Ça me parle pas là, ces chiffres. On est sur un autre pays, c'est des dimensions.
On est sur un autre pays, mais finalement, est-ce que c'est pas aussi une notion de choisir où c'est qu'on met son argent ? Dans la vidéo, elle parlait de rencontres et donc de sites rencontres virtuelles et qu'il n'y avait aucune pub avec des personnes en situation de handicap. Alors qu'il y a un pouvoir d'achat énorme qui serait à disposition, qui serait possible pour ces sociétés d'avoir cet argent. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Que penses-tu ? Est-ce qu'il y a un pouvoir d'achat caché, entre guillemets, des personnes en situation de handicap ?
Alors là, moi, j'entends pas un pouvoir d'achat pour les personnes. J'entends un marché. Voilà. Alors, oui. De fait, hein, 10% de la population est en situation de handicap. C'est un marché. Voilà. Je me souviens, depuis 25 ans que je suis dans l'Hérault, premier dossier sur lequel j'ai pu travailler, entre autres, c'était la question du tourisme. Tourisme autour de la dépendance. Hein, donc c'est un peu plus large que les personnes en situation de handicap. Ça concernait aussi les personnes âgées. Et globalement, il y avait des études qui expliquaient quel serait le bénéfice financier pour les stations balnéaires, d'accord, ou pour les villes qui vivent du tourisme, et on est dans une région qui vit du tourisme, de se mettre en accessibilité. Certes, ça permettrait aux personnes en situation de handicap de venir, mais globalement, l'étude, elle date des années 90. Hein. D'accord. L'étude expliquait qu'en projection, avec le vieillissement de la population et le pouvoir d'achat, sans qu'il soit extraordinaire, sans que ce soit des gens riches, des personnes âgées à la retraite, il y avait un enjeu économique colossal. Voilà. Donc là, 10% de la population, oui, il y a des... c'est un marché aussi. Bah, d'ailleurs, c'est un marché pour les vendeurs de fauteuils.
Merci Emmanuel Loussalo d'avoir été présent sur cet épisode d'Ear Valley People. Nous reparlerons de cette notion de marché lors du prochain épisode de l'accessibilité aux jeux vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, chers auditeurs. À la semaine prochaine. Suivez Dear Valley People sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.